5 minutes pour refaire le monde. Geneviève Fontaine de l'association Evaleco et Philippe Chemla du PECOS des Alpes-Maritimes questionnent l'économie sociale et solidaire.
Bonjour, et si on reparlait de développement durable, Geneviève, peut-être qu'on pourrait recommencer par le commencement et revenir aux sources du développement durable. C'est il y a quelques années en arrière, 1987, et le rapport Brundtland. Tu nous en dis un petit peu plus ?
Donc dans le rapport Brundtland, effectivement, de 1987, on a la première définition du développement durable et on a une traduction en français de cette définition qui est que c'est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Et moi, en travaillant cette définition, je trouve que la traduction française n'a pas été correcte dès le départ.
Dans quel sens ?
Dans le sens que la définition du développement durable repose sur les travaux d'un économiste, du développement indien, Amartya Sen, qui a eu le prix Nobel d'économie en 1998. Et lui, il dit que ce n'est pas répondre aux besoins, le développement humain ou le développement durable, c'est d'abord répondre aux besoins que les peuples jugent légitimes de satisfaire à un moment donné. Et donc, ça introduit immédiatement dans la définition la notion, effectivement, de participation des citoyens à la définition des besoins que l'on juge fondamentaux.
Et cette participation des citoyens, elle peut se fonder comment ? Parce qu'on a tous l'impression qu'on ne comprend pas, que c'est compliqué, qu'on n'est pas légitime à discuter de tout ça.
Donc pour Amartya Sen, si on revient là, il faut que les citoyens participent parce que pour lui, la vision qu'il a de la démocratie, ce n'est pas juste une démocratie représentative, même s'il considère qu'effectivement le vote, tout ça, c'est utile, mais il voudrait une culture, l'instauration d'une culture de la délibération publique, une démocratie participative. Et c'est ces notions-là qu'il introduit dans le développement durable. Si on traduit différemment la définition, on arrive à cette idée que le développement durable, c'est répondre aux besoins que les générations présentes jugent légitimes de satisfaire pour tout le monde, tout en préservant la capacité des générations futures à répondre aux besoins qu'ils jugeront légitimes de satisfaire au moment où ils seront à décider.
Mais à partir de quel critères on va pouvoir juger légitime ? À partir de quelle formation ? Quel paysage mental ? Comment on fait ?
Alors, le problème, c'est que donc, il faut qu'il y ait une culture de la participation et que donc l'administration, la construction des politiques publiques se fasse avec les citoyens et qu'on s'interroge d'entrée sur quels besoins on doit satisfaire à un moment donné ? Qu'est-ce qu'on trouve légitime de satisfaire pour tout le monde ? Comment on doit le satisfaire, c'est-à-dire le produire les biens et les services qu'on va juger légitimes de satisfaire. Donc ça suppose l'instauration d'une culture de la participation et qu'on n'a pas du tout en France actuellement.
C'est une culture, par contre, qu'on trouve beaucoup plus en Europe du Nord.
Une culture qu'on trouve en Europe du Nord, mais aussi en Amérique latine, dans plein d'endroits du monde, mais qui est particulièrement plutôt faible dans les pays où la démocratie donc élective, la démocratie où on élit des représentants du peuple est développée, eh bien, il n'y a pas forcément cette culture de la participation des citoyens.
Amartya Sen développe une idée autour de la capacité. Tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui, Amartya Sen, pour lui, le développement, c'est donc le rôle des pouvoirs publics, c'est de rendre les gens capables de vivre la vie qu'ils jugent légitime de vivre. C'est donc permettre aux gens de choisir leur propre vie, de choisir leurs propres activités. Et donc c'est une liberté qu'il définit comme positive, à l'opposé de la liberté négative qui serait l'absence d'interdits. Pour lui, pour rendre les gens libres, il ne suffit pas d'enlever les interdits, il ne suffit pas par exemple de donner le droit de vote aux femmes pour que les femmes aient la capacité de voter. Il faut aussi créer les conditions pour qu'elles se sentent légitimes à voter, les conditions pour qu'elles aient envie, par le vote, d'exprimer la vie qu'elles ont envie de vivre. Et ça ne s'arrête pas simplement à instaurer des droits, ça va beaucoup plus loin. Et c'est avec ces définitions, avec ces principes d'Amartya Sen que la définition du développement durable a été posée en 1987. Moi, je considère qu'on n'en a, en France, pas fait une traduction correcte dès le départ.
Alors, si on devait résumer, reprendre ta définition, le développement durable, pour qu'il réponde au sens de la définition première, ce serait un mode de développement qui permet de répondre aux besoins des générations présentes, que les générations présentes jugent légitimes de satisfaire, mais en même temps sans compromettre la capacité, la formation et les apprentissages des générations futures à satisfaire les besoins qu'elles jugeront légitimes de satisfaire au moment où elles auront elles-mêmes à se prononcer.
Exactement. Pour moi, le développement durable, c'est un système qui repose effectivement sur l'économie, l'environnement et puis le côté social, avec un axe axe central, une sorte de colonne vertébrale qui est la participation des citoyens. Et non pas comme on fait souvent là, comme représentation en France, quatre piliers du développement durable qui seraient l'économie, le côté social et puis le côté environnemental et à côté la gouvernance. Et souvent ça conduit à oublier la gouvernance alors que c'est la colonne vertébrale de la définition du développement durable.
C'est aussi pour ça qu'avec une entrée en France tellement environnementale, on a pu parler de greenwashing. Et ce sera la deuxième émission. Merci Geneviève.
Merci Philippe.
C'était 5 minutes pour refaire le monde, présenté par Geneviève Fontaine et Philippe Chemla. Retrouvez toutes les chroniques en podcast sur le site de Radio Éthique.